Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanche du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Un grand nombre de westerns ou de films qui se situent à la marge du genre western creusent le thème de l'inadaptation. Inadaptation d'un personnage à son environnement, inadaptation d'un personnage à son époque. Et à cet égard, dans ce genre de film, les mythes de l'Ouest apparaissent comme un refuge et finalement comme une négation du réel et comme une négation de l'époque contemporaine. Alors ce thème de l'inadaptation, inadapté en anglais, ça peut se traduire par Misfit, c'est The Misfit, c'est bien sûr un film très important de John Huston de 1961, qui pose au moins deux questions intéressantes. La première question, c'est la question dont je parlais déjà dans des chroniques précédentes et dont je parlerai dans des chroniques à venir, des limites du western, puisque The Misfit n'est pas un western au sens strict, puisqu'il se situe à l'époque contemporaine de son tournage, c'est-à-dire dans les années 60, 1960 et pas 1860. Pour autant, sous un autre angle, on peut considérer que The Misfits est un western, comme on va le voir. Autre question, c'est la question de l'ambition philosophique d'un film. Il y a eu des reproches qui ont été faits à ce film, à The Misfits, comme un film qui aurait des symboles trop appuyés, qui aurait des dialogues trop écrits. Par exemple, je cite l'article de l'Encyclopédia Universalis qui est consacré à ce film, article signé Laurent Julier, qui écrit ceci. Quel crédit accorder à ces cow-boys existentialistes et ces gogo danseurs kierkegaardiennes qui réfléchissent sans répit au sens de la vie. Fin de citation. Donc effectivement, les dialogues très littéraires sont un peu décalés, justement, inadaptés à ces personnages qui sont en fait des gens un petit peu à la dérive. Alors les reproches sont en partie justifiés, mais je crois qu'ils le sont seulement en partie. En effet, le travail de déconstruction du mythe par Huston est souvent plus subtil que ce qu'une une lecture superficielle pourrait nous laisser penser. Alors, bien évidemment, dès le départ, le ton est donné puisque le générique lui-même nous amène du côté de la métaphore. Le titre, c'est The Misfits, c'est le générique, ce sont des pièces d'un puzzle qui se déplacent et qui, justement, ont du mal à s'adapter les unes aux autres, ont du mal à former une unité, à former un tout, et donc se déplacent comme ça, se cherchent, etc. Alors, les métaphores, elles sont appuyées, bien sûr. Il y a, par exemple, la tension classique dans ce genre de film qui transpose l'univers du western dans le monde contemporain entre les chevaux sauvages qui expriment la liberté et l'ouest mythique et puis les voitures, les véhicules motorisés. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est sur une voiture de dépannage pour le coup, et le dernier plan aussi, c'est un plan qui est pris depuis une voiture. Et d'ailleurs, là aussi, la métaphore, le dépannage, au tout début du film, le personnage qui est joué par Eli Wallach va dépanner la voiture du personnage joué par Marilyn Monroe. Et la voiture, elle est toute cabossée. Et la voiture cabossée, elle symbolise bien sûr, évidemment, le fait que tous les individus qu'on va voir dans ce film sont cabossés aussi, sont des misfits. Métaphore aussi quand les Mustangs sauvages sont immobilisés par des grosses roues de véhicules. Métaphore quand explicitement le personnage joué par Clark Gable dit « Autrefois on offrait des Mustangs aux adolescents, mais aujourd'hui ils veulent des scooters ». Fin de citation. Alors le personnage joué par Clark Gable, justement, c'est lui qui exprime le plus directement les regrets d'une époque enfuie, les regrets d'une époque de l'époque de l'Ouest mythique, de la conquête, de la frontière. Et ces regrets sont corrélatifs à ces pulsions autodestructrices. Contrairement à Bronco Billy dans le film de Clint Eastwood, dont je parlais dans la dernière chronique westernosophique, qui lui transforme la nostalgie en spectacle et en simulacre et même en folie, en folie douce. Ici, le regret et la nostalgie sont transformés en autodestruction. Et tous les personnages, en fait, dans le film, ont des tendances autodestructrices, comme le personnage joué par Montgomery Clift, qui participe à des rodéos quasiment jusqu'à la mort, et qui, à un moment, d'ailleurs, est tellement abîmé par les rodéos qu'il est bandé comme une momie, un petit peu. Et à ce moment-là, d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres moments du film, est interrogée la frontière entre la vie et la mort. Et très explicitement, le personnage joué par Marilyn Monroe, à un moment, reproche à ses trois compagnons d'être morts, d'être des morts vivants. Mais il y a des moments où c'est moins explicite et où c'est sans doute plus intéressant. Il y a par exemple un très très beau plan où Marilyn Monroe est filmée devant le désert, où elle dit « c'est comme un rêve ». Et le plan est extrêmement vide. C'est vers la fin du film, séquence très très belle. Et le vide, c'est aussi le vide de l'extermination. C'est le vide de l'extermination des chevaux sauvages, puisqu'il en reste presque plus, on le voit dans le film. C'est le vide de l'extermination des bisons, et c'est le vide aussi de l'extermination des Indiens. Donc ce vide-là, c'est aussi le vide de la mort.
On dirait...
J'ai vu une photo représentant la Lune, c'était tout à fait ça. Vous mentez ? Guido va les faire sortir du défilé.
À qui est cette terre ?
À personne, probablement. On pourrait appeler cette terre la terre de Dieu.
Tu vois quelque chose ?
Hein ?
Quel silence ici !
Misfit, donc, peut être traduit par plusieurs mots français. Donc, inadapté, mal adapté, mal ajusté. Et effectivement, tout le film nous donne cette impression d'instabilité. Instabilité des identités. La première fois qu'on voit Marilyn Monroe, on l'aperçoit à la fenêtre, donc on l'entrevoit. La deuxième fois qu'on la voit, quelques secondes plus tard, on la voit, pas directement, mais on voit son reflet dans un miroir. Donc on est vraiment dans l'instabilité. Instabilité des identités qui s'exprime dans le choix final du personnage joué par Clark Gable, qui est très en colère parce qu'on a libéré les chevaux, qui rattrape un cheval, qui l'immobilise et puis qui le libère à nouveau. Et donc là encore, il y a comme ça un côté flou dans les choix des personnages. Instabilité aussi plus cinématographique, instabilité de l'espace et de l'image. Par moments, John Huston joue de manière assez subtile du flou. Les personnages ne sont pas toujours très nets. Par ailleurs, l'espace est instable. La maison de Guido, le personnage joué par... qui est inachevée. La scène nocturne dans le désert est complètement incohérente puisque on voit d'un côté un ciel étoilé, il fait nuit noire, et puis quand on filme les personnages, par contre, c'est simplement le crépuscule, et donc il y a comme ça un montage qui déstabilise le spectateur. Alors c'est pas très appuyé, mais quand on regarde attentivement, on comprend ce malaise et on comprend la nonchalance de John Huston finalement par rapport à l'idée de vraisemblance. Ce qui est instable aussi dans le film, c'est les valeurs. The Misfits, c'est un film sur la liberté sans doute et sur l'aliénation. La liberté, elle est revendiquée. Elle est revendiquée par les personnages du film qui refusent de travailler, qui refusent un emploi stable, qui refusent un salaire, qui préfèrent capturer des chevaux sauvages à l'ancienne plutôt que d'être salariés. Et par ailleurs, on se rend compte que ces personnages qui revendiquent la liberté sont aliénés. Ils sont aliénés à l'alcool, ils sont aliénés surtout à leur difficulté à agir, à maîtriser leur vie. Ils sont aliénés, c'est très vrai pour les trois personnages masculins notamment, ils sont aliénés à leur incapacité à transmettre. Hein, il y a tout ce thème de la filiation dans The Misfits. Montgomery Clift, il a du mal à couper le cordon avec sa mère. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit, il est au téléphone, donc il y a vraiment le cordon avec sa mère. Et il y a ce complexe de l'abandon aussi. Et il dit voilà, à cause de lui, sa femme est morte en couche parce que sa roue avait crevé. Donc non seulement il n'a pas pu avoir d'enfant, mais sa femme est décédé. Et Clark Gable, il y a une scène tout à fait pathétique et tout à fait magnifique où il hurle pour appeler ses enfants, qui le fuient en fait, parce que c'est un soulard, et lui aussi, donc il a des enfants, mais finalement il n'a rien transmis. Et donc ce mélange finalement de liberté revendiquée et d'aliénation réelle, il relève justement de ce grand travail de démystification auquel procède John Huston. Mais le travail de démystification, ce qui est intéressant, c'est qu'il porte pas seulement sur les mythes de l'Ouest, les mythes du Western et ses clichés, mais il porte aussi sur Hollywood et sur Hollywood comme machine à mythes, comme machine à fabriquer des mythes. Et bien sûr, le grand mythe, là, c'est Marilyn Monroe, mythe d'ailleurs que John Huston avait dans Asphalt Jungle contribué à créer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le film réhumanise Marilyn au-delà du cliché, au-delà de l'apparence. Il y a quelque chose comme ça qui reprend le mythe pour montrer que derrière le mythe, il y a une femme, en fait. Et Marcel Homs, dans la critique de Positif, de la revue Positif en 1961, donc à la sortie du film, écrivait ceci. The Misfits, qui est en soi un prolongement du mythe Monroe, s'avère au contraire être une démystification. Fin de citation. Alors, quand il écrit ça, Marcel Homme, s'il sait que Clark Gable vient de mourir, puisque Clark Gable meurt juste après la fin du tournage, il ignore par contre que Marilyn va mourir très bientôt, en 1962, il ignore aussi que Montgomery Clift mourra très prématurément lui aussi. La mort de ces trois acteurs de manière presque concomitante et presque après le tournage de The Misfits a bien sûr construit très rapidement l'idée d'une œuvre maudite, l'idée d'une œuvre comme ça dominée par une malédiction. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir que le sens d'un film, le sens d'une œuvre d'art dépend aussi de ses conditions de réception. Bien évidemment, John Huston, en tournant le film, ne savait pas que les trois acteurs allaient mourir aussi vite. Donc, le sens que nous projetons, nous, sur The Misfits, comme œuvre maudite, etc., ça fait que cette œuvre qui devait être une œuvre plutôt de démystification, finalement, rejoint le mythe, hein, puisque quel plus grand mythe que le mythe des artistes maudits et des œuvres maudites. Et on retrouve là, bien sûr, la puissance imaginaire, la puissance mythifiante du cinéma, à laquelle on voit, il est finalement très très difficile d'échapper.
Je sais que tout meurt tôt ou tard, tous les maris et toutes les femmes. Et l'amour aussi, c'est pourquoi aucun de nous ne peut apprendre à l'autre ce qu'il sait, n'est-ce pas? Oh Guido, vous êtes un gentil garçon. Souriez. Alors, souriez.
Et pour terminer, puisque j'ai commencé sur l'idée d'inadaptation, finalement je me demande si tout amateur de western, dont je suis bien évidemment, hein, si tout amateur de western n'est pas un misfit, n'est pas un mal ajusté, n'est pas un inadapté. Finalement, est-ce que dans le western, on ne cherche pas une fuite de la réalité en se réfugiant dans un autre temps, un autre lieu, dans même pas dans l'ouest historique, mais finalement dans l'ouest reconstruit par le cinéma. Voilà, peut-être que l'amateur de western est lui-même un misfit. Dans la prochaine chronique, donc, on continuera à fréquenter des inadaptés et on ira à la rencontre d'un autre grand inadapté, à savoir le personnage central d'un film d'Elmer Davis, qui est quasiment contemporain de The Misfits, c'est un film de 1962, et qui s'appelle « Seuls sont les indomptés ».
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.